France Bleu Creuse, le dossier du jour, Josiane Perron.
Bonjour à toutes et à tous. La prestation compensatoire, nous le savons en règle générale, permet d'effacer les déséquilibres financiers causés par le divorce. En cas de non-paiement, elle peut être aussi recouvrée par différents moyens. La prestation compensatoire, nous en parlons maintenant avec, pour répondre à vos questions, Maître Hervé Gallet, huissier de justice. Et si vous souhaitez poser une question, demandez un renseignement, il vaut mieux se renseigner avant les dégâts, vous le savez, il vaut mieux pas pratiquer la politique de l'autruche. Bref, pour intervenir, c'est à ce numéro.
France Bleu Creuse, le dossier du jour, 05 55 52 37 38.
Bonjour maître.
Bonjour.
Bienvenue pour ce dernier passage de l'année 2017. Alors peut-être déjà, allons-nous rappeler que cette prestation compensatoire, il ne faut pas la confondre dans ses modalités avec la pension alimentaire dont nous avons parlé la dernière fois.
Tout à fait. La pension alimentaire est là pour couvrir une obligation alimentaire, soit envers un ascendant, un parent, un grand-parent, soit envers un descendant, un enfant. La prestation compensatoire, elle est là pour compenser entre les époux à l'occasion d'un divorce une différence de niveau de vie.
Donc, on ne parle de prestation compensatoire que dans le cadre d'une séparation.
Que dans le cadre d'un divorce et que entre deux époux.
Oui, alors ça c'est une précision importante, pas prestation. Ça ne fonctionne pas dans le cadre d'un PACS ou autre.
Non, c'est uniquement prévu par le Code civil pour un divorce.
Cela permet d'effacer, nous dit-on, les déséquilibres financiers causés par un divorce. En revanche, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut que la demande soit présentée avant qu'il y ait les étapes du divorce, le passage devant le juge, quoique aujourd'hui c'est pas toujours devant le juge, on va distinguer tout à l'heure avec le divorce par consentement mutuel, comment ça se passe?
Alors là j'empiète un peu sur le terrain des avocats, mais bon...
Ils vont vous pardonner.
Oui, mais peut-être ce sera l'occasion aussi de faire une émission spéciale avec un avocat sur la mise en place de la prestation compensatoire. Par principe, elle peut être contractuelle dans le cadre d'un divorce amiable. Il y a des procédures de divorce amiable. Dans ce cas-là, les époux signent une convention par laquelle ils peuvent prévoir ou non une prestation compensatoire. À défaut, elle est définie par le juge. Donc elle est définie par le juge selon un barème qui lui est propre, sachant qu'un barème a été publié je crois en 2013 et permet aussi d'évaluer les montants et les obligations des uns et des autres.
2013, c'est pas un peu vieux ? Déjà.
Depuis 2013, l'outil existe. Ensuite, je ne le pratique pas tous les jours, donc je ne connais pas sa portée. La prestation compensatoire peut prendre plusieurs formes. Elle peut prendre la forme, par principe, on prévoit que la prestation compensatoire est un capital, c'est-à-dire une somme d'argent définie forfaitairement et qui doit être versée par un époux à l'autre époux en une seule fois. On peut aussi prévoir que la prestation compensatoire soit versée sous forme d'une rente. Ouais. Dans ce cas-là, dans son traitement, elle est traitée de la même façon qu'une pension alimentaire. C'est-à-dire que l'époux qui en bénéficie des mêmes outils que le bénéficiaire d'une pension alimentaire. La prestation compensatoire peut aussi être définie en nature. Donc quand je dis en nature, on entend par là soit un immeuble, soit même l'usufruit d'un immeuble. Et pour finir, on peut dire aussi que le juge a la possibilité de mixer tout ça. C'est-à-dire de définir une partie en nature, une partie en capital et une partie sous forme d'une rente.
Est-ce que c'est quelque chose de fixé par le juge et qui est immuable par la suite, au fil des années, ou ça peut être revu également?
Par principe, c'est immuable. Donc, c'est-à-dire que dès lors que la prestation compensatoire est définie, il n'y a pas de raison de revenir dessus. Il y a quand même des exceptions. Il y a une exception si la prestation compensatoire a été prévue pour être versée en plusieurs fois, le juge peut revenir sur les modalités de son paiement. Et si elle a été définie sous la forme d'une rente, dans certains cas, vraiment très spécifiques, donc le changement de revenu ou vraiment une situation, un accident de la vie ou quelque chose, le juge peut revenir sur le montant de la prestation compensatoire et en définir soit un nouveau montant, soit des modalités de paiement différentes.
Mais il n'y a que le juge, qui peut le faire.
Alors, la prestation compensatoire, si elle est contractuelle, c'est-à-dire si on intervient dans le cadre d'une convention de divorce, peut être, dès l'origine, dès le contrat, définie comme ayant un terme. C'est-à-dire qu'on peut, lorsque l'on divorce à l'amiable, définir une prestation compensatoire qui sera due jusqu'à ce que l'autre épouse se remarie, ou jusqu'à ce que l'époux qui la doit soit à la retraite. On peut définir des paliers. Dès lors que le juge homologue la convention, on peut tout imaginer.
Tout imaginer également, vous avez peut-être un souci ou un autre avec cette prestation compensatoire, que ce soit vous qui deviez la payer ou bien vous qui deviez la recevoir. 05 55 52 37 38, vos questions, c'est maintenant.
I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed.
Invité du jour pour le dernier passage de l'année 2017, Maître Hervé Gallet, huissier de justice.
France Bleu Creuse, le dossier du jour.
Et nous avons choisi pour ce matin d'évoquer la prestation compensatoire, une émission qui fait suite à la précédente qui était consacrée aux pensions alimentaires. Cette prestation compensatoire qui est censée effacer les déséquilibres financiers causés par le divorce. Et si nous mettons bien, déséquilibres financiers causés par le divorce, et là ça concerne des gens officiellement, on va dire, marié, ça n'entre pas dans le cadre d'un PACS ou autre, ce qui peut faire réfléchir également. Prestations compensatoires non versées, un souci. 05 55 52 37 38 pour avoir de bons conseils et peut-être débloquer un dossier, parce que le souci majeur, maître, dans cette prestation compensatoire, comme dans d'autres domaines, c'est le recouvrement.
Et oui.
Et là, ça peut coincer.
Selon la forme qui aura été décidée par les parties et par le juge, le recouvrement de la pension, enfin le paiement de la prestation compensatoire n'est pas forcément simple. Alors, le plus souvent, le paiement peut être prévu directement lors de la liquidation du régime matrimonial. Donc là, c'est Maître Bagilet qui vous en apprendra davantage.
Bonjour Sidonie.
C'est lors de la liquidation du régime matrimonial que les droits des époux sont liquidés et que les paiements sont faits en fonction aussi de ce qui aura été décidé par la convention et par le juge. Dans certains cas, et notamment lorsque la prestation prend la forme d'une rente, l'huissier intervient pour aider l'époux qui en est bénéficiaire à la recouvrer.
Mmh. Aider, c'est-à-dire, on sait bien que c'est pas je frappe à la porte, je récupère le chèque et je repars.
Alors, selon la forme qu'elle va prendre, s'il s'agit d'une rente, la prestation compensatoire est considérée comme une dette alimentaire. Donc, on va bénéficier des mêmes outils. On va pouvoir utiliser donc la procédure de paiement direct que l'on a définie, que l'on a présentée lors de la dernière émission. Donc, on va directement écrire à l'employeur, agir sur les 6 derniers mois, demander à l'employeur de rattraper les 6 derniers mois et les mois à venir, et de les verser directement à l'époux bénéficiaire. Toutes les autres voies d'exécution sont également ouvertes. C'est-à-dire que, en cas de défaut de paiement, on peut tout aussi bien envisager des saisies sur les comptes, des saisies du mobilier, des saisies des véhicules. Et qui, mieux que l'ex-époux, pourra nous guider sur le meilleur moyen de recouvrer la dette?
En revanche, maître, si on en croit ce vieux dicton, on ne plume pas un œuf s'il n'y a pas d'employeur, s'il n'y a pas de bien à...
La prestation compensatoire, elle est là pour compenser une différence de niveau de vie.
Ouais.
Donc par principe, si le juge a homologué une convention ou si une convention a été définie entre les époux, c'est qu'il y a une différence entre les deux. Et c'est donc que l'époux qui doit la payer a des biens, du capital, du revenu. Mmh. Donc par principe, ce ne sont pas des situations les plus courantes. Ensuite, des accidents arrivent toujours, donc on peut avoir des situations un peu exceptionnelles. Ou lorsque, encore une fois, l'époux qui en est bénéficiaire aura laissé passer trop de temps et que la situation de son ex-époux aura changé de façon à ce qu'on ne puisse plus intervenir.
Mmh. Il y a ça aussi. 05 55 52 37 38. Quel bon conseil finalement, maître. On va se placer nous dans les deux cas de figure. Une prestation compensatoire qui n'est pas payée. On réagit assez vite quand même, tout comme pour la pension alimentaire.
Oui, j'ai même envie de dire, le divorce c'est quelque chose qu'on fait pas tout seul. On est accompagné à chaque étape du divorce par son avocat. Les deux époux ont chacun leur avocat, bon, sauf dans le cas des divorces purement conventionnels, mais l'avocat va apporter tout le conseil nécessaire en amont. Dans un divorce, s'il y a des biens immobiliers, va intervenir également le notaire. Tous les professionnels qui vont intervenir en amont du divorce vont pouvoir apporter un conseil éclairé sur les choix à faire ou à ne pas faire et sur les choses qu'il est possible de faire et les risques éventuels.
D'accord.
Donc tous mes conseils vont se placer en amont du divorce.
Oui, mais si c'est trop tard?
Mais si c'est trop tard, à ce moment-là, on est là pour essayer de résoudre les problèmes, comme toujours.
D'accord. Donc on réagit assez vite?
Toujours, on réagit toujours dès que le degré... Dès que le seuil de tolérance a été passé, j'ai envie de vous dire. Là encore, on est dans une situation, par suite d'un divorce, il y a toujours un affect important. Donc, il faut trouver un juste milieu entre ce qui est tolérable et ce qui ne l'est pas. Mais dans tous les cas, l'huissier va essayer de vous accompagner, de vous aider là encore à prendre les bonnes décisions.
Si nous nous plaçons dans l'autre sens, nous sommes redevables d'une pension, d'une prestation, compensatoire qu'on n'arrive pas trop à assumer.
Alors là encore, tout va dépendre de sa forme. Si la forme est en capital, la situation va être compliquée. Parce que si la prestation compensatoire a été définie comme telle, c'est qu'il y a derrière des revenus ou des biens qu'il va falloir réaliser. S'il y a un immeuble et qu'on est redevable de la prestation compensatoire, il vaut mieux prendre les devants. Mais là, c'est le notaire, lors de la liquidation du régime matrimonial, qui va apporter le conseil qui va bien. Ensuite, s'il s'agit d'une rente et qu'on ne peut plus la payer pour un problème de changement de situation, là encore, il faut saisir le juge. Il n'est pas trop tard pour demander, non pas une révision, mais un aménagement du versement de cette prestation compensatoire.
Et dans quelques instants, maître, nous évoquerons aussi le cas de figure qui est si l'un de ces deux ex-époux décède, que devient cette prestation compensatoire? On a peut-être quelques vraies et fausses idées reçues, ce qui veut dire qu'il vous reste encore du temps pour vous renseigner. 05 55 52 37 38, encore une fois, un huissier de justice ne vous mordra pas, qui plus est sur France Bleu Creuse. Parce que j'ai quand même l'impression qu'on tend l'oreille, mais on n'ose pas trop appeler. Allez, prouvez-moi le contraire.
France Bleu Creuse, le dossier du jour, 05 55 52 37 38.
Je voudrais retourner à la mer, les vagues où naissent les rochers. La terre sur laquelle tu marchais, je voudrais retourner à la mer.
les falaises, immobile. Observe de loin l'Afrique, je voudrais retourner à la mer. L'amour à peine l'a-t-on connu, qu'il faut s'en aller vaincu, sans rien comprendre à son mystère. Je voudrais retourner à la mer, les oiseaux qui tournent dans le vent, sans effort, sans mouvement, sur la courbure de la terre. Le jour se lève entre les îles, et les milliards d'insectes antiques sur les falaises immobiles observent de loin l'Afrique.
Retourner à la mer, Raphaël.
France Bleu Creuse, le dossier du jour.
En compagnie de Maître Hervé Gallet, huissier de justice, il est question ce matin de la prestation compensatoire. Cette prestation qui est présente pour tenter d'effacer les déséquilibres financiers causés par le divorce. En revanche, Maître, que se passe-t-il si l'un des deux époux décède ? Est-ce que c'est quelque chose qui reste acquis, entre guillemets, aux enfants, dans la succession ? Comment ça marche ? Alors, et oui, je sais, Sidonie n'est pas là, mais quand
c'est
même.
Ça. C'est pas grave. En cas de décès, la prestation compensatoire, elle a été définie au profit d'un époux. En cas de décès de l'autre époux, elle reste due. Donc elle va venir dans la succession comme une dette. Et elle devra être traitée comme une dette. Donc c'est-à-dire que les héritiers, par principe, ne vont pas avoir à couvrir la prestation compensatoire. C'est l'actif successoral qui va définir si elle va être payée ou pas. Si le paiement était fractionné, c'est-à-dire si la prestation compensatoire était définie en disant ça sera payable en 10 ans à raison de, eh bien elle va devenir immédiatement exigible. C'est-à-dire c'est pas la succession qui va devoir continuer à payer sur les mêmes termes, la succession va devoir tout payer tout de suite. Et s'il s'agissait d'une rente, elle va être convertie en capital, c'est-à-dire que si le juge ou la convention à la base prévoyait le versement d'une rente, dans la succession, ça va devenir un capital et ça va être versé en une seule fois. Mais les héritiers n'auront pas à couvrir le montant de la prestation au mois le mois.
Oui, c'est très direct hein, quand même. Comme.
C'est bien là aussi pour compenser une différence de revenus entre les époux. Si l'un des époux meurt, peut-on encore parler de différence de revenus ? De toute façon, l'époux est décédé, donc il y a plus de... La différence a disparu quelque part.
Il vous reste encore du temps, hein, si vous aussi vous souhaitez poser votre question. C'est au 05 55 52 37 38. Maître Hervé Gallet, huissier de justice, vous répond en direct. Et nous en profitons pour rappeler, Maître, en cas de remariage, en revanche, cette prestation, qu'est-ce qu'elle devient ?
C'est conventionnel. Si ça a été défini dès le début comme une rente payable à vie, c'est payable à vie. Si c'est un capital, c'est payable tout court. Si par contre, dans la décision ou dans la convention à l'origine, on a dit en cas de remariage ou en cas de changement, dès lors que les revenus dépassent un certain seuil, la prestation s'arrête. Lapsus. La prestation s'arrête.
J'ai rien entendu. 05 55 52 37 38.
9h-11h, La vie en bleu, sur France Bleu Creuse.
France Bleu. France Bleu vous fait aimer le cinéma.
Je sais que je ne suis pas un enfant ordinaire. J'ai déjà eu 27 opérations. Mais malgré tout, je ne ressemble pas aux autres.
Pour Auguste Pullman, la rentrée des classes est un vrai défi.
Non, tu n'es pas laid. Et tous ceux qui s'intéresseront à toi s'en rendront compte.
Mais la gentillesse peut être contagieuse.
Trop cool.
Wonder, le 20 décembre au cinéma, avec Julia Roberts et Owen Wilson.
Quand on veut voir le vrai visage des gens, il suffit de les regarder.
Les émissions et la bande-annonce sur francebleu.fr.
Patrick Sébastien nous parle de son livre « Le bonheur n'est pas interdit ».
Quand dans ta tête tout est sombre, trop de soucis, trop de souffrances, dis-toi que rien n'est jamais fini. Même en traversant les épreuves les plus terribles, crois-moi, je l'ai vécu. Tu peux préserver des parcelles de bonheur. Ce livre, je l'ai écrit pour toi, pour te dire que le bonheur n'est jamais interdit.
Le bonheur n'est pas interdit de Patrick Sébastien, le livre qui va vous faire du bien, un livre XO.
XO, la bonne idée cadeau.
France Bleu Creuse vous souhaite un joyeux Noël.
Crush sur France Bleu Creuse.
France Bleu Creuse, le dossier du jour.
Les dernières minutes en compagnie de Maître Hervé Gallet, huissier de justice, autour de cette question de prestations compensatoires. Nous avons vraiment appris beaucoup de choses depuis 9h, en sachant qu'effectivement, avec votre casquette d'huissier de justice, Maître, quand il y a non-respect, non-paiement, c'est le jeu des saisies qui entre.
Eh oui. Donc, dès lors que la prestation est due, comme toute autre dette, bon, au-delà de la procédure de paiement direct, donc pour les pensions qui sont, pour les prestations qui sont versées par rente, tous les autres moyens d'action que nous avons d'habitude sont ouverts. Donc, on a la saisie attribution qui nous permet d'effectuer une saisie sur les comptes bancaires. C'est une saisie qui est effectuée par surprise, c'est-à-dire qu'on ne va pas prévenir la personne que son compte va être bloqué. Ça évite justement les éventuelles tentatives d'échapper à ses obligations. La saisie attribution, dès lors qu'elle est délivrée dans la banque, doit être communiquée au débiteur dans les 8 jours et elle ouvre un délai de contestation d'un mois. Ce qu'il faut savoir, comme à chaque fois, c'est que chaque saisie ouvre un délai de contestation, en général d'un mois, qui permet au débiteur d'aller voir le juge de l'exécution. C'est un juge spécialisé qui se trouve à Guéret pour notre cas, et qui apprécie des conditions dans lesquelles les saisies ont été effectuées, qui va voir si la dette est réellement due et si la saisie a été faite en respectant la procédure. La deuxième procédure la plus commune, c'est la saisie sur le mobilier, ce qu'on appelle la saisie-vente. Alors, contrairement aux idées reçues, lorsque l'huissier va engager une procédure de saisie-vente, il ne vient pas directement enlever les meubles avec le déménageur. La saisie-vente se fait, c'est pour nous l'occasion d'engager un dialogue. Et ça consiste en fait à réaliser un inventaire des biens saisissables. Alors les biens saisissables, tous les biens ne sont pas saisissables. Par principe, ne peuvent être saisis que les biens dont la valeur est supérieure aux frais que la saisie va engendrer, et que les biens qui ne sont pas nécessaires à la subsistance du saisi. Donc on ne peut pas saisir une table et les chaises, autant qu'il y en a d'habitants dans la maison, le réfrigérateur, les éléments de cuisson, de lavage de linge, etc., de literie, de vêtements, donc ne vont être saisissables que les éléments de confort, on va dire, et les véhicules.
Oui.
Dans le cadre de la saisie-vente, on peut saisir un véhicule. Les véhicules ont également des procédures spécifiques, notamment la procédure d'immobilisation et d'enlèvement. Alors, pour un véhicule, ce qu'il faut savoir, c'est que l'huissier peut tout à fait poser un sabot, comme la fourrière. Le sabot va immobiliser le véhicule sur la voie publique ou chez la personne, et passer là encore un délai de contestation, le véhicule sera ensuite emmené pour être vendu par le commissaire-priseur ou par l'huissier lui-même, de façon à payer la dette. Et la dernière procédure la plus courante, c'est la procédure de saisie sur salaire. Donc, à l'exception des procédures qui sont ouvertes dans le cadre des pensions alimentaires, la saisie sur salaire, on considère que c'est quelque chose de trop grave pour que l'huissier puisse l'engager tout seul. Donc, ça passe par le tribunal d'instance de Guéret, et c'est la juge du tribunal d'instance qui va décider de la saisie ou non, si on ne parvient pas à trouver un accord entre le créancier et le débiteur.
Alors, s'il n'y a pas de salaire, s'il n'y a pas d'employeur à proprement dit,
eh bien, si
c'est
on
une autre forme de saisie ou...
On ne peut pas engager la procédure de saisie des rémunérations. Donc on va se cantonner aux autres moyens. Ensuite, il y a d'autres procédures qui sont un peu plus exceptionnelles, je vais dire, dans leur mise en œuvre, à la fois parce que leur coût est élevé et à la fois parce que leur objet est plus rare. Et dans ce cadre-là, je veux surtout parler de la saisie immobilière. Mmh. Donc la saisie immobilière, c'est la saisie d'un immeuble pour le paiement d'une dette. C'est une procédure qui, là encore, compte tenu de sa gravité, va être gérée par le juge. Elle va être gérée par le juge de l'exécution, qui va déterminer à chaque étape de la procédure la date de l'étape suivante. Donc tout se fera de façon progressive, et l'huissier ne va intervenir que pour accompagner le juge et effectuer sur le terrain les différentes étapes de la saisie. C'est une procédure qu'on ne va engager que pour des dettes dont le montant va être suffisant pour que la mesure soit proportionnée à son objet. On n'engage pas une procédure de saisie immobilière pour une dette de 1000 euros. Par contre, dès que la dette commence à devenir conséquente, c'est une procédure qu'on va envisager très sérieusement parce qu'elle permet de réaliser un paiement et de contraindre la personne qui en est redevable à effectuer et à couvrir ses obligations.
Les frais d'actes et autres d'huissiers sont à la charge du débiteur ?
Les frais sont à la charge du débiteur. Donc, dès lors qu'un impayé est constaté par une décision de justice, tous les frais qui vont être engagés vont venir s'ajouter à la dette. Donc là aussi, il ne faut pas faire l'autruche. Dès lors qu'on a une situation d'impayé, autant engager un dialogue, que ce soit avec le créancier lui-même ou avec l'huissier s'il a déjà été saisi, pour trouver une solution de paiement échelonné qui satisfasse tout le monde. Là encore, l'huissier n'a pas la main, on ne peut pas accorder de délai de paiement sans avoir l'accord de notre créancier. Donc, toujours instaurer un dialogue pour éviter que les procédures ne soient engagées, que les comptes ne soient bloqués, et le tout aux frais de la personne qui doit déjà de l'argent.
Si dans un même cas, il y a prestations compensatoires et pensions alimentaires, il y en a une qui prime sur l'autre ?
Tout dépend de la forme de la prestation compensatoire. Si elle est définie sous la forme d'une rente, elle sera exactement traitée de la même façon qu'une pension alimentaire. Elle bénéficiera des mêmes procédures et des mêmes exonérations. C'est-à-dire que sur une pension alimentaire, l'huissier ne prélève pas d'honoraires. Sur une prestation compensatoire sous forme de rente, l'huissier ne prélèvera pas d'honoraires. Sous la forme d'un capital, elle est traitée comme une créance de droit commun. Il y aura un prélèvement d'honoraires et les procédures de paiement direct ne seront pas ouvertes. On sera sur les voies du droit commun. Donc, si on a une pension alimentaire, on peut engager par principe une procédure directement entre les mains de l'employeur. Si la prestation compensatoire est prévue non pas sous forme de rente, mais sous la forme d'un capital ou d'un paiement fractionné, il faudra engager les autres mesures. Et il arrive assez souvent qu'on soit dans le cadre d'une procédure de paiement direct, directement effectuée par l'huissier entre les mains de l'employeur, et que pour la partie de la prestation compensatoire, on aille voir le juge d'instance pour être autorisé à engager en plus une saisie des rémunérations.
Ces saisies sur salaire ne peuvent s'appliquer que sur les personnes salariées régulièrement, j'imagine, au sein d'une entreprise, non ?
Ça s'applique également sur le Pôle emploi. Le Pôle emploi, c'est traité par la saisie des rémunérations.
D'accord.
Alors ensuite, à part le Pôle emploi, j'en vois pas d'autres. Les autres formes de versements mensuels sont des versements, notamment de la CAF et des pensions, sont insaisissables par nature. Mmh. Donc là-dessus, il n'y a pas d'intervention, sauf pour une pension alimentaire, puisque la pension alimentaire va primer sur tout le reste.
France Bleu Creuse, le dossier du jour.
Un ou deux bons conseils, maître, pour refermer cette page sur la prestation compensatoire.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut bien prévoir les choses en amont. Le conseil de l'avocat avant d'envisager le divorce ou au cours du divorce va permettre d'éviter tous les écueils de la suite.
Merci beaucoup, maître. Nous allons vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année.
De même, je vous souhaite de bonnes fêtes.
Vous avez envoyé votre lettre au Père Noël ?
Bien sûr.
Elle est longue, la liste ?
La mienne, non, mais celle de mon petit garçon, oui.
Très bonne fête en famille et nous aurons le plaisir de vous retrouver dès le mois de janvier. Demain, bien évidemment, nous vous changeons totalement le décor. Demain, nous accueillerons pour la première fois, d'ailleurs, dans ce dossier, les représentants de l'association des piégeurs agréés de la Creuse. Piégés, qui a le droit, comment, quels animaux sont concernés ? Nous en parlerons demain matin dès 9h.
France Bleu Creuse, le dossier du jour, à retrouver sur francebleu.fr.